Chapitre 11. On sait peu que l'exposition universelle colombienne de 1893 avait sa propre infirmerie. Plus qu'un simple poste de secours, c'était plutôt un petit hôpital doté de personnel et de beaucoup de moyens, avec des escouades d'infirmières et 5 médecins à temps plein, dont l'un était une femme. Sherlock Holmes était la 7e personne qu'on y transportait. 4 femmes et 2 hommes s'étaient déjà trouvés mal dans la cohue et la chaleur de la cérémonie. 2 médecins, dont aucun n'était une femme, se penchèrent sur le cas du détective et décidèrent d'appeler en renfort un chirurgien de l'hôpital général de Chicago, spécialisé dans les blessures thoraciques. Il arriva au grand galop, emmené par une voiture de police, sirène hurlante, et jugea que les blessures n'étaient pas trop graves. Aucun organe vital n'avait été touché. On fit des points de suture à Holmes dans le bas de l'abdomen, en haut du ventre, le long des côtes à droite, au poignet droit, siège d'une étrange brûlure de balle, au cuir chevelu et dans le dos. Il souffrait d'un traumatisme crânien, de fortes contusions à la tête et aux épaules, et on découvrit aussi qu'il s'était cassé 2 doigts de la main droite dans l'échauffourée, comme disaient les médecins qui n'étaient au courant de rien. Peu de gens d'ailleurs entendirent parler de cet incident, car ni Daniel Burnham, ni Davis, ni le maire de Chicago, ni le président Cleveland ne voulaient que l'on sache qu'un tueur avait failli donner une fin tragique à la cérémonie. Dans la foule, personne n'avait rien vu, ou presque. Ceux qui avaient été témoins de quelque chose avaient pensé qu'il s'agissait d'acrobaties loufoques faisant partie des célébrations. La presse ne fut pas informée. Les invités de Henry Cabot Lodge acceptèrent de bon cœur de rester 2 jours de plus à l'exposition pour attendre que Holmes sorte de l'hôpital. Finalement, ce fut son traumatisme crânien qui le retint au lit le plus longtemps. Il fut en état de sortir le 3e jour, le torse bandé serré et le bras droit tenu dans une écharpe dont il se serait bien passé, mais qu'il préféra garder encore un peu à cause de ses douleurs au poignet. Andrew L. Drummond et Henry James allèrent voir Holmes à l'infirmerie, et James était présent quand Drummond apprit au détective que la chambre d'Irene Adler était située à l'étage du dessous. Une chambre gardée 24 heures sur 24 par 2 hommes armés de la garde colombienne.
« Comment va-t-elle ? »
demanda James étonné car il l'avait crue morte.
« La balle a traversé son épaule gauche sans casser la clavicule ni toucher d'artère, lui apprit Drummond. Elle a eu beaucoup de chance. » Elle a perdu un petit bout d'os, mais elle devrait vite être sur pied.
« Va-t-elle être poursuivie ? » demanda Holmes du fond de son lit.
Ben, « Certainement !» s'exclama Drummond.
« Quelle charge va-t-on pouvoir retenir contre elle, au juste ?»«
Eh bien, elle a... Oh, bon sang de bois !»«
Mettez-la tout de même sous bonne garde. C'est une femme dangereuse. »
Henry James avait décidé de prendre le United States à New York pour retourner en Europe et de s'arrêter probablement en Angleterre, mais il n'excluait pas de rester à son bord jusqu'à Gênes, d'où il pourrait se rendre à Florence et de là remonter vers le nord pour retrouver son frère William et sa famille à Lucerne. En dépit des objections sincères et répétées de James, les Lodge et les Cameron décidèrent de faire un crochet par New York pour déposer Harry avant de rentrer chez eux et pourquoi pas de le regarder partir dans le transatlantique. Il ne demandait pas mieux, affirmèrent-ils, que de prendre une semaine pour permettre à ces dames de se lancer à l'assaut des magasins et à ces messieurs de bavarder avec leurs amis de Wall Street et leurs agents de change. À l'arrivée dans l'État de New York, leur train privé fit halte pendant 3 heures à Buffalo pour changer de locomotive, ce qui donna le temps à tout le monde de déjeuner dans un bon restaurant et de se dégourdir les jambes. James rentra seul avant les autres pour se reposer et le valet qui l'accueillit à son arrivée au train lui annonça
« Un monsieur vous attend dans votre compartiment, monsieur. »«
Comment ça, dans mon compartiment ?»
s'indigna James.
« Il a insisté pour rentrer en votre absence, monsieur, » expliqua le domestique, contrit. « Il a assuré qu'il vous connaissait et devait vous voir de toute urgence dès votre retour parce qu'il avait quelque chose d'important à vous dire. Je suis désolé si j'ai mal fait de le laisser s'asseoir dans votre cabine. »
James balaya l'excuse d'un geste impatient, fort mécontent. Il entra dans sa petite mais luxueuse cabine et ferma la porte derrière lui avant de s'apercevoir qu'il y faisait noir comme dans un four. On avait baissé les stores et tiré les rideaux pour obscurcir la fenêtre. Il lui fallut quelques secondes pour distinguer l'homme assis dans le fauteuil du fond, près de la lanterne qui éclairait James pour lire. Encore une seconde et il reconnut le visiteur. Le professeur James Moriarty. Le peu de lumière se reflétait sur le front saillant de cette tête cadavérique, ses fines lèvres blanches, ses joues creuses et les touffes de poils blancs qui sortaient de ses oreilles pointues. Sa langue reptilienne pointait sans arrêt entre ses lèvres sèches. Les ongles de ses longs doigts étaient immenses, recourbés et jaunis par l'âge et la cruauté.
« Ah, monsieur Henry James, enfin, c'est vous !»
siffla Moriarty en se levant.
N'ayant même pas sa canne pour se battre, James se jeta sur la porte de la cabine et l'ouvrit, mais il s'arrêta en entendant derrière lui une voix qui ne lui était que trop familière. « Vous ne me quittez pas déjà, James, j'espère. » James pivota sur ses talons. Moriarty ouvrit les rideaux et releva les stores, rendant au compartiment toute sa luminosité. Cela fait, il retira avec soin ses longs ongles jaunes un à un. Ensuite, il ôta son dentier, puis s'attaqua à son visage qui avait déjà changé de forme. Il s'arracha des parties des joues et du front, du nez et du menton, qu'il faisait tomber au fur et à mesure dans une serviette dépliée pour cet usage. Le haut du front s'enleva d'une seule pièce avec la peau du crâne chauve, accompagnée de désagréables bruits de ventouses. Henry James, médusé, observa sans mot dire la métamorphose qui se termina par un long travail à la pince à épiler. S'étant enduit d'une sorte de crème, Holmes retira ce qui restait du professeur Moriarty de ses oreilles, de son visage, de son menton, de son cou. Tous les rembourrages et postiches s'empilaient sur la serviette étalée sur le haut de la commode. « Vous ne trouvez rien à dire sur le plus beau rôle de ma carrière ?» s'étonna Holmes. Il se regarda dans le miroir de James pour se recoiffer, puis remit son poignet droit dans son écharpe noire. « Pourquoi ?» demanda James. Holmes se frotta les mains comme s'il n'avait pas de bras en écharpe. « Voilà près de 5 ans que mon frère Mycroft et moi donnons vie à cet être malfaisant que nous avons baptisé le professeur Moriarty. Nous avons d'abord simplement commencé par la rumeur de son existence dans les petites histoires du docteur Watson, puis il y a eu des apparitions publiques.
« Et la dynamique d'un astéroïde ?» protesta James. « Le livre a bien été publié. Je l'ai vu. »
« Oui, le livre est bien réel. » Et scientifiquement exact, d'après ce que l'on m'a dit. Mon frère Mycroft et l'un de ses anciens professeurs de Christchurch, l'éminent Charles Ludwig Dodgson, ont trouvé le sujet et la matière du grand œuvre mathématique du professeur Moriarty.
Et les participations de Moriarty à de véritables conférences d'astrophysique, à Leipzig par exemple?
Mes performances, pourtant inspirées, sont passées totalement inaperçues, s'amusa Holmes. J'ai découvert il y a bien des années un phénomène très intéressant. Quand on veut avoir à la paix, il suffit de se rendre repoussant par l'aspect, par l'odeur, par le comportement. Les gens vous fuient.
Mais pourquoi vous donnez tout ce mal ?
Demanda James sidéré. C'est vrai. 5 ans d'une supercherie complexe, concéda Holmes en se perchant sur l'accoudoir du fauteuil de James. Le visage impassible, l'écrivain traversa la cabine pour aller s'asseoir sur le lit. Des bruits de voix indiquaient que les autres passagers revenaient de leur promenade dans Buffalo. Sous les traits de Moriarty, j'ai réussi à rassembler des bandits ordinaires et à les fédérer au sein d'une grande organisation criminelle. J'ai mis au point pour eux des coûts exceptionnels. 1 demi-million de livres en certificats sur l'or émis par la Seconde Réserve Banque à Londres, plus 1 million de livres en lingots d'or du dépôt de Berne, des centaines de milliers de dollars de la Farmers Trust Bank de Kansas City, 500 millions de lire de la Banque Centrale de Rome.
J'entends,
interrompit James. Donc je suis en train de parler à un grand gangster, un créateur d'organisations criminelles qui depuis 5 ans pille l'Amérique, l'Angleterre et le continent européen.
Pourquoi ne vous a-t-on pas encore jeté en prison ?
Parce que tous les coups fabuleux de Moriarty ont été orchestrés par Mycroft et Whitehall, avec la complicité des sergents de ville et des établissements financiers concernés. Les certificats sur l'or étaient de magnifiques contrefaçons issues par le gouvernement de Sa Majesté, qui nous ont permis de remonter les réseaux criminels de plus de 12 gangs à Londres, Liverpool, Birmingham et même Cambridge.
Et l'or ?
Les criminels l'ont fait vérifier par des experts, mais Mycroft et ses collègues n'ont pris aucun risque. Les experts étaient des nôtres.
« Et les anarchistes ?»
insista James.
« J'en ai vu beaucoup à votre meeting à Washington, qui voulait se faire appeler socialiste. »
Holmes secoua la tête admiratif.
« Mais quel courage et quel sens de l'initiative vous avez montré ce jour-là ?
J'étais dans l'impossibilité de vous révéler nos plans quand vous m'avez confié cette information si importante.
Ces plans, quels étaient-ils ?
Le 1er mai, dans 23 grandes villes et 9 pays, les forces de police ont refermé leur filet sur les criminels et les anarchistes qui avaient fait serment de mettre le monde à feu et à sang.
Et de quoi les accusera-t-on ?
Ironisa James, ne mettant qu'un centième de son mépris dans son sarcasme.
Attroupement illégal ? Tenue négligée ?
95% des criminels que nous avons recrutés et qui se sont rassemblés pour les émeutes et les pillages du 1er mai avaient déjà des mandats d'arrêt lancés contre eux, et souvent dans plusieurs pays. En ce qui concerne les anarchistes, ceux qui se sont rendus sur les lieux désignés avec des bombes et des armes ont été incarcérés et le reste mis sous surveillance.
Donc, votre génial frère Mycroft et vous avez inventé de toutes pièces le professeur James Moriarty? Vous vous êtes échiné à étayer la réalité de son personnage de mathématicien? Vous en avez fait un Napoléon du crime? Et puis, vous avez prétendu que ce criminel imaginaire vous avait tué aux chutes de Reichenbach en Suisse? Tout ça, je suppose, pour vous rendre plus libre de vos mouvements et vous permettre pendant 3 ans de rassembler les cambrioleurs et les anarchistes sous votre déguisement de Moriarty?
C'est bien cela. Il n'y a pas grand-chose de plus. J'ai demandé à disposer de 6 mois après ma fausse mort aux chutes du Reichenbach pour aller voyager au Tibet et poser quelques questions au Dalai Lama. Le voyage s'est prolongé plus que je ne l'aurais voulu par la faute des dons de tireur du jeune Lucan.
« Ces 3 balles qui vous ont atteinte, » dit Henry James lentement. « J'ai vu la taille des cartouches, des balles, quand j'ai actionné le levier du Mauser et que l'une d'entre elles a été éjectée. Elle était énorme. Comment se fait-il que vous ne soyez pas mort ?»«
Mais peut-être suis-je mort. »
« Voulez-vous bien cesser de jongler avec ces billevesées métaphysiques dont vous m'abreuvez depuis que nous nous sommes rencontrés ?» protesta vivement James en se dressant sur ses jambes. « Allez-y, passez le reste de votre vie. Mais est-ce bien une vie ? À vous interroger et à interroger tous ceux que vous rencontrez pour savoir si vous êtes réel. Tôt ou tard, j'en suis sûr, un ivrogne dans un pub puant l'urine et la sueur vous donnera la bonne réponse. »
Une réponse, on m'en a déjà donné une qui me convient bien, répliqua Holmes d'un ton songeur. Il y a 2 jours. James garda le silence. Savez-vous que l'on peut se donner vie par les chants? Demanda Holmes. Et donner vie à d'autres en racontant des récits qui les concernent et en les transmettant comme vous le faites? Et par l'écriture, Henry James, n'est-ce pas aussi ce que vous recherchez? À vous rendre plus réel à travers votre art?
James refusa d'écouter ces inepties.
Et pourquoi, s'enquit-il d'un ton sec, étiez-vous à la gare centrale de Chicago avec des malfrats le samedi matin où je voulais aller à New York?
Je vous cherchais, James. Et les malfrats, comme vous dites, étaient des hommes du colonel Rice qui me les avaient prêtés.
Il y avait trop de voitures à visiter pour une seule personne avant le départ du train.
Pourquoi étiez-vous grimé en professeur Moriarty pour me chercher, alors que je voulais justement échapper à cette folie, ce cauchemar, et rentrer chez moi en Angleterre?
Holmes se leva lui aussi. Ce matin-là, je voulais vous montrer mon déguisement de Moriarty et vous demander de retarder votre départ, de rester le temps que nous percions l'énigme qui nous intéressait tous les deux.
Ah, parlons-en de cette énigme. Vous n'avez même pas résolu le mystère que vous a présenté ce pauvre Ned Hooper avant sa mort. Les cartes tapées à la machine envoyées tous les 6 décembre. Elle a été assassinée. Vous n'avez pas oublié, je présume.
L'aventure n'est pas terminée. Sous le bandage, le poignet cassé de Holmes le faisait de toute évidence souffrir, car il remua le bras dans son écharpe noire.
Et voulez-vous savoir ce que je pense de votre aventure ?
Gronda James. Mais certainement, je vous écoute. Jamais de sa vie, Henry James n'avait fait une chose pareille, pas même quand il se bagarrait avec William et Wilkie, pas même quand il était fou de rage. Pour la première fois donc, il forma un poing bien fermé avec sa main droite et assena de toutes ses forces indirectes sur le menton insolent du grand détective privé Sherlock Holmes. Holmes fut projeté en arrière sur le lit, pris totalement par surprise. Quand il parvint à se rasseoir, il se frotta le menton de sa main valide. « Je le méritais sans doute. » murmura-t-il. Je vous demande pardon, James. D'autant que j'ai appris à vous considérer comme un ami, une chose rare, sachant le peu d'amis que j'ai. James lui tourna le dos, sortit de la cabine et traversa le train pour aller retrouver ces dames dans la voiture salon où il s'assit un moment, prétendant être le bon garçon inoffensif qu'il rêvait souvent d'être.
Holmes profita d'un arrêt à Albany pendant lequel John Hay et les autres voyageurs descendirent faire quelques pas pour aller voir Clara Hay qui avait préféré rester à cause d'une de ses migraines.
« Puis-je vous parler un instant en privé, madame ?» Elle eut un sourire là et porta la main à sa tempe.
«
J'ai un mal de crâne épouvantable, monsieur Holmes. Plus tard, peut-être ?
Non, profitons de ces instants de tranquillité, madame Hay,
insista Holmes en entrant dans le compartiment. Il s'assit sur une chaise.
Bien, alors je vais nous faire apporter du thé,
soupira-t-elle. Quand la domestique entra avec le plateau chargé d'une tasse et d'une assiette de scones et de sablé, Holmes s'adressa directement à elle.
Maintenant, vous pouvez sortir, Sally, et fermer la porte derrière vous.
Choquée de recevoir des ordres de la part d'un invité de Madame Hay, Sally jeta un coup d'œil à sa patronne pour savoir si elle devait obéir. Madame Hay, de toute évidence choquée elle aussi, ou du moins très surprise, fit toutefois signe à Sally de les laisser. Ensuite, elle s'assit sur un petit fauteuil garni d'une surabondance de coussins, aussi loin de Holmes que le permettait l'espace du compartiment, qui était relativement étroit, même dans un train de luxe.
« Que se passe-t-il, monsieur Holmes ? »
demanda-t-elle d'une voix faible.
« Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable d'attendre John pour qu'il participe à notre conversation ?»«
Non. »
Il prit sa tasse et sa soucoupe, ajouta un peu de lait et but une gorgée brûlante. Clara, elle, observait avec méfiance, immobile comme si elle se trouvait devant un serpent à sonnette.
« Clara, » dit Holmes, « je sais que vous êtes l'auteur des cartes de visite portant les mots « Elle a été assassinée ». Il est préférable que vous arrêtiez de les envoyer maintenant.
« C'est l'accusation la plus scandaleuse que j'ai jamais !»
commença Clara, ses mains volant à ses joues. « Votre époux et vous avez passé 3 jours chez M. Clemens à Hartford l'année suivant la mort de Clover Adams. Vous êtes souvent resté seul, et Clemens se souvient que vous lui avez demandé comment utiliser son nouvel engin dactylographique.
« Ridicule !»
protesta encore Clara, et même si elle ne put rien ajouter.
J'ai retrouvé 2 domestiques de M. Clemens qui se rappellent avoir entendu des bruits de machines à écrire sortir de la salle de billard, alors que Clemens et Hay vous avaient laissé seul tout l'après-midi pour aller se promener, Clara. Mais ce qui a achevé de me convaincre, c'est l'argent. Rien ne prouve mieux que ces cartes viennent de vous.
De quel argent parlez-vous ?
Au printemps 1891, peu de temps avant ma supercherie des chutes du Reichenbach et mon absence préméditée, Ned, le frère de Clover, m'a demandé d'aller en Amérique pour enquêter sur les cartes mystérieuses qui revenaient tous les ans à la date anniversaire de la mort de Clover. Je n'ai pas menti en disant que je ne lui avais pris qu'un seul dollar comme avance pour résoudre l'énigme quand j'en aurais le temps. Trop tard pour le pauvre Ned, j'en suis navré. Mais il m'a proposé 3 000 $ pour aller sur le champ en Amérique enquêter sur la mort de sa sœur.
Ned n'a jamais disposé d'une telle somme,
murmura Clara Hay. C'est exactement ainsi que votre mari et Henry Adams ont réagi quand je leur en ai parlé. Ils étaient persuadés que Ned affabulait. Mais Ned m'a montré les 3 000 $ quand il est venu me voir chez moi au 221B Baker Street. Il m'a supplié de les prendre et de le suivre en Amérique tout à fait cessante, en me promettant de rallonger la somme si je trouvais la solution de l'énigme. J'ai tout de suite pressenti que Ned Hooper n'avait pas un sou vaillant, même pas les fonds nécessaires pour aller en Angleterre. Quelqu'un lui avait donné de quoi me payer. Une personne qui avait besoin des services d'un détective. Clara Hay planta les yeux dans ceux de Holmes, le défiant du regard avec une fermeté dont il ne l'aurait jamais cru capable.
« Êtes-vous en train de me réclamer ces 3 000 $, monsieur Holmes ? Maintenant que vous avez élucidé cette affaire insoluble, comme le dit le docteur Watson dans les histoires qu'il vend au magazine ? Ou bien me réclamez-vous une plus grosse somme pour garder le silence ? J'ai mon carnet de chèques ici. »
Joignant le geste à la parole, elle ouvrit le tiroir d'un secrétaire à côté d'elle et en sortit chéquier et stylo.
« Tout ce que je souhaite, c'est que vous m'expliquiez ce qui vous a poussé à écrire ces messages, madame. Pourquoi, pendant 7 ans, avez-vous tenu à ce que les 4 membres restants des 5 de cœur reçoivent cette carte tous les 6 décembre ?»«
Parce que j'étais convaincue qu'il s'était passé quelque chose de grave, »
répondit Clara avec brusquerie.
« Je n'aimais pas particulièrement Clover Adams, monsieur Holmes. Je la trouvais imbue de sa personne et condescendante, et je n'aimais pas sa façon de se conduire, comme si tout lui était dû. Nous avions formé ce club des 5 de cœur, mais lors de nos thés quotidiens, devant la cheminée des Adams, Clover se prenait pour l'as de cœur. Henry Adams et mon cher John parlent toujours d'elle ainsi depuis son suicide. Et moi, je n'étais même pas le 5e cœur. Ces messieurs taquinaient notre ami Clarence King, lui recommandant d'épouser enfin une de ces beautés à la peau brune des mœurs du Sud pour ajouter un 6e cœur à notre groupe. Mais le 6e cœur, c'était déjà moi. La sixième roue du carrosse, plutôt. Celle qui avait le moins d'esprit. Pas assez rapide, pas assez drôle. Pas assez cultivée pour suivre leurs discussions et ajouter mon grain de sel aux bons mots qui fusaient comme l'éclair.
Elle s'arrêta de parler, tel un jouet mécanique qui arrive en bout de course. Elle referma son stylo qu'elle avait brandi sous le nez de Holmes comme une dague ou un revolver, puis le rangea dans le secrétaire avec son gros carnet de chèques.
J'ai eu la nette impression que si cette Rebecca Lorne se donnait autant de mal pour devenir l'amie de cette pauvre Clover Adams dans l'état lamentable où elle se trouvait, c'était que cette femme et son affreux petit cousin Clifton tramaient quelque chose de louche. Ils ne pouvaient qu'obéir à de noirs desseins. Et Clover était trop faible pour se défendre. Je suis encore certaine qu'ils sont la cause du suicide de Clover, si c'était vraiment un suicide.
Un profond silence s'installa pendant plusieurs minutes. Puis Holmes reprit doucement la parole. Mais ce n'est pas la vraie raison qui vous a poussé à envoyer Ned Hooper à Londres pour retenir mes services moyennant une petite fortune et me demander de mener l'enquête sur les membres des Cinq de Cœur. Elle eut un mouvement involontaire, puis se redressa dans son fauteuil, le dos parfaitement droit. La réponse eut du mal à sortir tant sa gorge paraissait bloquée.
« Je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire, Monsieur Holmes. »
Le détective plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit quatre lettres, chacune encore contenue dans son enveloppe mauve, adressée de l'écriture fermée masculine de John Hay. « Je vous ai observé pendant les dîners auxquels j'ai assisté, Madame Hay. J'aime regarder les gens, les étudier. Vous êtes une maîtresse de maison irréprochable. Mais je vous ai vu aussi surveiller chacun des gestes de votre mari, chaque mot qu'il adressait aux femmes présentes autour de la table, jauger sa façon de leur parler, de les regarder. » Surtout quand il s'agissait de Nanny Lodge, dans la chambre de laquelle ces lettres de Monsieur Hay étaient cachées. Clara ne put retenir un cri étouffé.
« Comment avez-vous osé voler une correspondance privée en vous introduisant illégalement dans... »«
Détrompez-vous, » intervint Holmes avec un sourire. « Je n'ai rien fait. J'ai simplement envoyé un jeune compère mince et athlétique, aux cheveux verts coiffés en pointe, à une certaine adresse, pour qu'il inspecte les coins habituellement choisis par les dames mariées pour cacher les lettres d'amour qu'elles reçoivent d'hommes mariés qui ne sont pas leurs maris. Ces lettres, et d'autres, mais qui m'ont paru moins importantes, comme vous en conviendrez, étaient retenues par du papier collant au-dessous du tiroir de lingerie de Nanny Lodge. Précisément le stratagème utilisé par Lizzie Cameron pour cacher les lettres de Henry Adams chez elle, songea Holmes. Les femmes sont fines, mais je raisonne trop comme elles pour m'y laisser prendre. Un sourire lui vint aux lèvres, toutes les femmes, sauf Irene Adler. Tenez, dit Holmes en lui tendant les quatre lettres. Elle les accepta toutes comme Cléopâtre dut prendre l'aspic mortel sur son sein.
Si je les lis,
commença-t-elle hésitante. Vous n'en oublierez jamais le style et les images, avertit Holmes. Mais sachez que ce ne sont là que les mots et les images qu'utilisent dans leurs imprudentes lettres d'amour tous les hommes qui, la quarantaine venue, font face à leur mortalité. C'est un moment d'égarement, une folie purement masculine. Clara Hay se livra alors comme si elle avait oublié la présence de Sherlock Holmes.
John m'envoyait des lettres d'amour autrefois, et des poèmes merveilleux et inédits, et des fleurs. Et puis, j'ai pris du poids après la naissance des enfants. Un dimanche, en rentrant de l'église, j'ai entendu John rire avec ce rustre de Samuel Clemens de « Moi ?» Et de mon... Voilà ce qu'a dit mon très cher mari. Clara n'est pas beaucoup sortie de l'hôtel pendant notre voyage à Chicago, mais côté appétit, elle a joyeusement englouti toutes les victuailles à disposition.
Elle regarda Holmes comme si elle se rappelait soudain sa présence.
J'aime John plus que tout au monde. J'ai construit ma vie autour de mon mari et de mes enfants. Mais ce jour-là, j'aurais pu les tuer tous les deux. Lui et cet idiot de Clemens, si j'avais eu un revolver.
Holmes hocha la tête sans commenter. Clara contemplait fixement les lettres, les tenant au bout de son bras tendu comme des serpents prêts à mordre.
Nanny Lodge ne va-t-elle pas remarquer que les lettres ont disparu ?
Murmura-t-elle. Si, bien sûr, répondit Sherlock Holmes en s'autorisant un rare sourire. Elle le verra, je vous le promets. Et puis elle va énormément s'inquiéter en se demandant où ses courriers sont passés. Je pense que vous pouvez compter sur un changement de comportement de la part de Nanny Lodge et de votre mari. Un changement durable, je pense.
Donc je n'ai pas réellement besoin de les lire,
murmura-t-elle. Non, confirma Holmes en joignant les mains en coupe, comme s'il s'apprêtait à recevoir la communion. Il vit une étincelle de compréhension s'allumer dans les yeux de Clara Hay. Prenant les enveloppes les unes après les autres, elle les déchira en 1000 morceaux dans les mains de Holmes. Il les fit tomber dans un grand cendrier en cristal et prit son beau briquet pour les faire brûler. Malgré sa main bandée qui gênait ses mouvements, il ne laissa pas un seul fragment échapper aux flammes et les quelques confettis restants trouvèrent le chemin de sa poche. « Je vous laisse, madame, » dit-il en se levant. « Je vais aller dans les toilettes publiques de cette gare pour faire disparaître ces derniers bouts de papier qui n'intéressent plus personne. » Elle posa sur Holmes un regard lumineux, puis avança de nouveau la main vers le tiroir où elle avait rangé son chéquier.
« Votre paiement ?»«
Je ne suis pas venu en Amérique pour l'argent. Je suis venu pour Ned. Et je pense aussi pour vous. Bonne journée, madame. Nous n'aurons peut-être plus l'occasion de nous reparler avant l'arrivée du train à New York. » Henry James fêta joyeusement son départ avec ses compagnons, d'abord dans un bon restaurant de la 32e rue, puis de nouveau au port où le SS United States se préparait à lever l'ancre. Les remorqueurs trapus se mettaient déjà en position.
« C'est drôle que Holmes ne soit pas venu dîner avec nous ou ne se soit pas présenté à l'embarquement pour me dire au revoir »,
remarqua James, songeur entre deux souhaits de bon voyage.
« Il a peut-être oublié l'heure du départ »,
répondit Henry Cabot Lodge.
« Il m'a toujours semblé avoir l'esprit très occupé. »«
Ses blessures le font peut-être souffrir ?»
avança la jeune Hélène.
« Ou plus probablement, il s'est déjà lancé sur une nouvelle affaire !»
suggéra John Hay.
« Eh bien, » dit le sénateur Don Cameron, un bras autour de la taille de sa femme Lizzie, qui souriait à Adams, « nous avons eu plus que notre dose de la compagnie de cet individu pour un bon moment. Mais vous, Harry, revenez-nous vite. »«
Vous, plutôt, venez à Londres, à Paris ou en Italie pour me voir. »
Cameron et Lodge échangèrent des regards entendus.
« Avec la panique des banques et de Wall Street que nous voyons venir comme un raz-de-marée, »
déclara Henry Cabot Lodge,
« la plupart des grandes familles de New York, de Boston et de Washington vont bientôt devoir se serrer la ceinture et aller vivre pour pas cher en Europe. Et puis ils reviendront dans un an ou deux quand la tempête sera passée. Ceux qui auront pu surnager, bien sûr. »«
Voyons, mon cher, ne dites pas des choses pareilles !»
se récria Lizzie Cameron en donnant une petite tape sur l'épaule de son mari.
« Pas d'idée noire pendant que nous souhaitons un bon voyage à Harry. » Je trouve l'idée plutôt plaisante si elle signifie que je vais vous revoir bientôt à Londres. »
s'amusa James. Il souleva son chapeau et monta sur la passerelle, alors que retentissait le coup de sifflet final demandant aux derniers voyageurs de monter à bord et aux visiteurs de descendre à terre.
« Adieu, mes amis »
cria-t-il, tentant de se faire entendre malgré le hurlement strident de la vapeur sous pression.